www.radioscoop.fr.
Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient évidemment comme tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, heure de Paris, 9h en temps universel. Avec dans un instant vos questions à la rédaction, des questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas forcément dans les éditions des RFI, eh bien vous nous appelez, le standard est ouvert tout au long de la journée et vous composez le 01 53 92 64 40, 33 1 53 92 64 40 si vous nous appelez de l'étranger. Puis en deuxième partie d'émission, je vous proposerai dans une trentaine de minutes de réagir au processus de paix en Côte d'Ivoire. On reviendra bien évidemment sur la formation du nouveau gouvernement d'union nationale, hein, depuis samedi dernier, avec à sa tête Guillaume Soro. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les frères Zeni, autrement dit le président Gbagbo et le chef de l'ex-rébellion, vont parvenir ensemble à œuvrer pour la paix. Vont-ils surmonter leurs divergences? Là aussi, vous êtes les bienvenus, vous êtes déjà très nombreux en tout cas. 01 53 92 64 40. Une première question. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Marseille, c'est ça?
C'est ça.
C'est ça. Vous avez-vous des questions concernant le financement de la campagne électorale aux États-Unis?
Oui, j'entendais dernièrement des chiffres un petit peu énormes sur la collecte que sont en train de faire les candidats pour leur campagne. Et je voulais savoir si on savait de qui venaient ces fonds et quelle était l'influence de ces donateurs ensuite sur le candidat qui gagnait l'élection, directement ou indirectement, ouais. L'influence.
Olivier Dallage, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que la semaine dernière, les candidats ont communiqué les sommes qu'ils ont réussi pour l'instant à lever sur les primaires. C'est vrai que les sommes sont colossales. Tous les candidats réunis, je crois qu'ils sont 6 côté démocrate et 5 côté républicain, pour les primaires évidemment. La totalité s'élève à plus de 130 millions de dollars.
Oui, on connaît.
Attendez, on a un petit problème avec votre micro, tout ça est en direct. Alors Olivier, installez-vous sur le micro de droite, on va de nouveau faire un petit essai. Un peu de patience Stéphanie, on règle tout ça, on est en famille ce matin. Allez-y Olivier, donc on disait que les sommes étaient colossales.
Oui, elles sont effectivement colossales. En fait, on connaît ces montants parce que maintenant, la loi américaine oblige les candidats à les déclarer. Il y avait une date limite au 31 mars, donc avant le 31 mars, il fallait qu'ils fassent connaître le montant de leur récolte en quelque sorte. La campagne est l'une des plus chères de l'histoire des États-Unis, certainement la plus chère, et c'est pas fini. Mm-hmm. Si on prend celle de 2004, il y avait au total 4 milliards de dollars qui ont été dépensés, et beaucoup de gens disent qu'on s'approche du double. Alors peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur qui paye et comment. Hein.
Qui sont les fameux donateurs?
Voilà. Alors déjà, il faut savoir que depuis 2002, une loi interdit aux entreprises de verser directement pour les campagnes électorales. C'était une campagne menée par certains élus qui estimaient qu'on était proche de la corruption. Cela dit, la réforme n'est pas allée jusqu'au bout parce que les entreprises n'ont pas le droit de verser pour la campagne électorale, mais elles peuvent verser aux partis politiques.
Mmh.
Et donc les partis politiques, eux, font la campagne de leurs candidats.
Oui, parce qu'il me semble qu'en 2004, George Bush et John Kerry avaient été financés, aidés en tout cas par plusieurs compagnies. En tout cas, elles avaient financé une partie de leur campagne électorale. Je pense à des grandes marques, on peut en citer deux, trois, McDonald's, Coca-Cola, etc. Elles ont financé.
Oui, mais encore une fois, depuis 2002, elles ne peuvent plus verser directement pour la campagne. Donc elles versent aux partis. Mmh. Ou alors, autre solution, sachant que chaque individu n'a pas le droit de verser plus de 2000 dollars pour la campagne. Rien n'interdit en revanche de former ce qu'on appelle un Political Action Committee, c'est un groupe de pression en quelque sorte, qui lui n'a pas de limite. Donc un groupe de pression pour la défense de l'environnement, pour la défense des pollueurs, enfin pour tout ce que vous voulez, et c'est par centaines de millions qu'ils versent aux candidats. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que les entreprises ont parfaitement le droit d'organiser des collectes à l'intérieur de leurs locaux.
Et c'est donc le personnel.
Et le personnel, volontairement. Mm-hmm. Hein. Enfin, on peut imaginer aussi que dans certains environnements, ne pas verser soit mal perçu par la hiérarchie et par les collègues. Eh bien donc, ils versent au profit d'un candidat. Et ça permet, au bout du compte, d'arriver à des sommes faramineuses. Et je passe sur tous les dîners à 2000 dollars le couvert, mmh. qui permettent aussi d'attirer de riches sympathisants pour voir leur candidat et laisser au passage leur argent. Alors, deuxième aspect de la question, c'est...
L'influence des donateurs.
Alors, je ne sais pas si beaucoup de nos auditeurs ont vu un film qui s'appelle Le Président et Miss Wilde, dans lequel Michael Douglas jouait le rôle d'un président. Et il avait été mis au pouvoir en quelque sorte par le big business, les grandes entreprises. Et comme il est séduit par une jeune militante écologiste, à un moment donné, ses parrains, les industriels, le réunissent en disant « Oublie pas qui t'a mis là où tu es, et on te lâchera si tu ne sais pas ce pourquoi tu as été élu. » Alors c'est un film, ça n'est que Hollywood. Mais il est tout à fait exact que, par exemple, s'agissant de l'administration Bush, le secteur de l'énergie, du pétrole en général, a soutenu cette administration. Et on se rappelle que lorsqu'il s'est agi pour l'administration Bush de définir une politique énergétique, il y avait un groupe de travail dans le bureau de Cheney, le vice-président, qui se réunissait. Et quand on a voulu savoir qui faisait partie de ce groupe de travail, eh bien, la vice-présidence a opposé le secret, ne voulait pas qu'on dise qui participait. Et parmi les participants, il y avait des dirigeants des plus grandes entreprises de l'automobile, du pétrole et de tout ça. Donc oui, évidemment, de la même façon, il n'y a pas que les républicains. Hein, côté démocrate, on sait que le monde de l'informatique, du logiciel, du cinéma a plutôt tendance à soutenir les démocrates. Et voilà comment, en effet, ces grandes compagnies et les gens qui financent espèrent bien avoir un retour sur investissement avec l'élection de leur candidat.
Ouais. Stéphanie, êtes-vous satisfait des explications d'Olivier Dallage ?
Oui, tout à fait.
Ben voilà, on a répondu à votre question. Merci d'avoir appelé. Et merci de nous écouter à Marseille. 01 53 92 64 40. Yves, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Paris.
Oui.
Nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Je voudrais poser une question à propos de la sœur qui aurait été guérie subitement de la maladie de Parkinson par un miracle attribué à Jean-Paul II, pour lequel elle a une grande dévotion, bien sûr, et pour lequel, miracle, un dossier aurait été transmis à Rome.
Ça, c'est pas Auray. C'est pas Auray. Là, on n'utilise même pas le conditionnel. Effectivement, un dossier est complet.
Ah oui, le dossier a été transmis.
De milliers de pages ont été effectivement données au Vatican, et principalement à la commission qui sera chargée d'authentifier ou non ce fameux miracle.
C'est ça même. Oui. Et un dossier dont personne ne connaît le contenu pour le moment.
Mm-hmm.
Bon, voilà, ma question est la suivante. Est-ce que, sans mettre en doute, bien sûr, la bonne foi et la sincérité de la sœur, bien sûr. Est-ce qu'elle ne pouvait pas présenter des signes ou symptômes de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire les tremblements, la rigidité, etc., sans avoir réellement la maladie organique de Parkinson?
Ah.
C'est-à-dire que il y a des maladies en particulier neurologiques pour lesquelles les sujets peuvent développer ces symptômes sans avoir réellement la maladie.
Ouais. Alors, c'est une question effectivement pointue. Pour vous répondre, nous avons une spécialiste de la maladie de Parkinson, Anne-Sophie Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes gériatre à l'hôpital Broca à Paris. Vous êtes donc effectivement spécialiste de la maladie de Parkinson. Peut-être avant de répondre précisément à la question d'Yves, deux, trois repères pour qu'on comprenne bien ce que c'est concrètement cette maladie de Parkinson. Comment se caractérise-t-elle et quels sont peut-être les principaux symptômes?
Alors déjà, je voudrais dire que, comme vous tous, je n'en sais pas plus sur le dossier de la sœur, mais je pense qu'effectivement, on peut rappeler quelques éléments concernant cette maladie de Parkinson, qui est connue depuis très longtemps, puisque c'est James Parkinson, d'ailleurs, qui a donné son nom en 1817, qui a parlé pour la première fois de cette maladie. Et un autre point très important, c'est que, cette maladie touche quand même plus de 100 000 personnes en France, certainement, et qu'elle a vraiment des conséquences sur le plan moteur qui sont extrêmement gênantes.
Oui, puisqu'elle affecte le cerveau.
Voilà, elle affecte le cerveau et elle va avoir des conséquences essentiellement sur les muscles et sur la motricité. Alors, justement, on parlait des symptômes, il y en a trois qui sont essentiels. Alors déjà, il faudrait dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette maladie? C'est qu'il manque un messager cérébral qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine est tout à fait essentielle dans la régulation du mouvement.
Mmh. Et donc l'absence de dopamine
qui n'est plus présent dans une petite structure du cerveau qu'on appelle le locus niger, la substance noire, va entraîner, comme disait notre auditeur, essentiellement trois grands symptômes, qui sont le tremblement. Alors, ce tremblement est assez caractéristique. Il a lieu au repos. Il est plutôt en général d'un côté que de l'autre. On dit qu'il est asymétrique. La deuxième manifestation tout à fait essentielle va être la lenteur dans les mouvements. la personne va avoir de plus en plus de mal à initier les mouvements. Ces mouvements vont être pauvres.
Oui.
Et puis, il va y avoir le troisième symptôme, qui est la rigidité. Mmh. Et c'est ce qui va faire que la personne va marcher à petits pas. Va avoir des... Et alors, le problème de tous ces symptômes, ça va être qu'au fur et à mesure, la personne va risquer des chutes liées à des pertes d'équilibre.
Et ces trois symptômes, finalement, on les retrouve hein, dans le témoignage de sœur Marie Simon-Pierre, puisqu'elle racontait qu'elle ne pouvait pratiquement plus écrire, elle ne pouvait pratiquement plus conduire, puisque sa jambe gauche, donc là on revient à ce que vous disiez, se bloquait, elle était très fatiguée, très épuisée. Donc on a là véritablement les symptômes de la maladie de Parkinson, mais la question d'Yves est intéressante. Est-ce que finalement ça pourrait être une autre maladie que celle de Parkinson?
Alors... De nouveau, hein, je ne connais pas du tout le dossier de Saint-Marie, donc je ne pourrais pas du tout me prononcer sur ces troubles. Ce qu'on peut dire, c'est que en général, le diagnostic a déjà été fait par le médecin généraliste. Souvent, un spécialiste, neurologue ou gériatre, revoit le malade après, avant la mise sous traitement. Que les symptômes, que le diagnostic est fait d'une part sur l'ensemble des symptômes qu'on observe en examinant le malade, et puis on va faire d'autres examens qui auront pour but d'éliminer d'autres diagnostics, d'autres maladies.
Ouais.
Mais à l'heure actuelle, par exemple, on fait... alors certes, le scanner IRM n'apporte pas plus, enfin, permet d'éliminer d'autres maladies, mais il y a également... on peut faire un examen qui s'appelle une scintigraphie,
oui.
Qui permet de voir s'il y a des anomalies au niveau de cette substance noire cérébrale dont je vous parlais au début.
Mais la question d'Yves est d'autant plus importante, professeur Anne-Sophie Rigaud, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas et on ne sait pas guérir la maladie de Parkinson.
Alors, effectivement, à l'heure actuelle, la maladie est incurable. On ne peut pas la guérir. Par contre, on peut considérablement améliorer les symptômes des personnes, parce que justement, on connaît la substance chimique qui manque, c'est la dopamine,
mm-hmm.
et on peut la remplacer par des médicaments qui vont transformer justement la dopamine dans le cerveau et permettre d'apporter le messager qui manque.
Donc on peut réduire les symptômes, mais on ne peut pas guérir complètement.
On peut, voilà, c'est
ouais,
ça.
C'est
on
ça.
Peut
ouais.
considérablement améliorer la vie des personnes. On peut améliorer aussi les douleurs, parce que dans cette maladie, il y a beaucoup de douleurs. En revanche, pour l'instant, on ne peut pas guérir. Hein.
Ouais. Yves à Paris, a-t-on répondu à vos différentes questions?
Pas tout à fait dans le sens... Allô?
Oui, bien, allez-y.
Oui, pas tout à fait dans le sens où je ne remets pas en doute les symptômes que présentait la sœur en question.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que je ne dis pas que je ne pose pas la question est-ce qu'il y a une autre maladie neurologique que présentait cette sœur. Mais simplement, je pose la question est-ce que ces symptômes ne peuvent pas être attribués à ce qui est connu depuis assez longtemps, depuis Charcot, chez qui Freud allait prendre des leçons à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire que il faut quand même que le mot soit posé, c'est-à-dire une hystérie de conversion ou une malade, c'est un phénomène connu, où cette sœur, par compassion, par dévotion pour Jean-Paul II, par volonté de participer à ses souffrances et par imitation, elle a pu présenter les mêmes signes que lui, vous voyez.
Et on
est subitement guéri après que le pauvre Jean-Paul II soit décédé.
Alors la spécialiste vous répond, Anne-Sophie Rigaud.
Alors, la conversion hystérique, effectivement, est connue depuis très longtemps. Elle est beaucoup, beaucoup plus rare maintenant. Il s'agit effectivement d'avoir des symptômes d'une maladie. C'est-à-dire qu'on a tous les symptômes, mais effectivement, on n'a pas les lésions. On n'a pas les lésions organiques quand on examine les malades. Alors, ça, de nouveau, hein, je ne peux pas du tout vous répondre quant à...
Quant à Marie, c'est mon père. Il y a très peu de personnes qui ont pu étudier son cas. Il y a 5-6 experts qui sont restés anonymes.
Ce que je peux dire, c'est que je pense que manifestement, elle a été examinée par plusieurs médecins.
Tout à fait.
Et qui, des experts. Donc, à mon avis, ces personnes connaissaient bien, bien examiné les symptômes, bien examiné les examens complémentaires et certainement donné un avis tout à fait éclairé.
Bien sûr.
Et manifestement, elle paraissait extrêmement affectée par ces symptômes depuis longtemps. Et de toute façon, elle ne peut que se réjouir que cette maladie qui était manifestement chronique pour elle ait pu disparaître extrêmement rapidement.
Anne-Sophie Rigaud, merci d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu donc à Yves. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la maladie de Parkinson. Vous êtes gériatre à l'hôpital Broca, donc à Paris, dans le 13e arrondissement. On passe au standard très vite pour la dernière question. Benjamin, bonjour.
Bonjour, Anne.
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. Nous vous écoutons.
Bon, je vais intervenir sur la réunion qui s'est tenue à Lomé, au Togo, des ministres de l'économie et des gouverneurs des banques de la zone franc.
Bien sûr, allez-y.
Cette réunion s'ouvrait sur le débat autour du rattachement du franc CFA à l'euro.
Oui.
Bon, j'ai l'impression que sur le plan commercial, les pays de la zone franc sont pénalisés dans leur exportation. Donc, je me demande si cette monnaie n'a pas perdu sa compétitivité par rapport à d'autres pays africains non membres de la zone franc. Par exemple, l'Afrique du Sud ou le Niger.
Alors, c'est très intéressant, Benjamin. C'est vrai qu'il y a un débat actuellement autour de l'arrimage du franc CFA à l'euro. Dalila Beritane, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a eu effectivement cette réunion donc la semaine dernière, réunissant donc les ministres de la zone franc. C'était pas forcément à l'ordre du jour, la question de l'arrimage, mais c'est vrai qu'on s'interroge de plus en plus. Est-ce que ça vaut le coup toujours d'être que le franc CFA soit arrimé à l'euro?
Oui, parce qu'il y a un certain nombre d'économistes qui posent maintenant le débat sur la place publique, j'ai envie de dire, également sur notre antenne, sur RFI. Effectivement, le rattachement du CFA à l'euro ne permet pas aux pays de la zone franc de faire varier le cours de leur monnaie en fonction donc des aléas économiques donc sur laquelle la monnaie peut peser. Avec un bémol toutefois, puisque la Banque de France qui garantit le franc CFA, ces aléas peuvent être relativement amortis. Alors je dis bien relativement par un mécanisme que l'on appelle un mécanisme du compte d'opération, qui permet à la Banque de France de faire varier, je dirais, la quantité de monnaie en circulation en fonction donc de l'appréciation ou de la dépréciation de la monnaie européenne. Mais alors qu'est-ce qui se passe en fait quand l'euro est très fort, comme c'est le cas en ce moment par rapport au dollar? Eh bien, les pays de la zone franc sont effectivement handicapés en termes de compétitivité. On ne peut pas le nier, puisqu'ils exportent des produits vers des pays hors Union européenne, ce qui est le cas donc avec l'Afrique de l'Ouest, qui exporte son coton vers la Chine. Or, ces exportations sont libellées en dollars, sont généralement libellées en dollars.
Donc, ça veut dire que le coton africain est donc plus cher sur le marché, c'est ça?
Non, le coton africain, c'est comme si vous devez exporter plus de coton et avoir moins de monnaie en retour, de devises en retour. Donc, effectivement, en termes de compétitivité, ces pays africains perdent en tout cas leur principale matière d'exportation. Un seul exemple, le cours du coton est légèrement supérieur à ce qu'il était il y a 2-3 ans et pourtant, si vous voulez en termes très simples, pourtant les pays africains reçoivent moins d'argent en vendant leur coton aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une perte de compétitivité. En revanche, un euro fort et en quelque sorte un franc CFA fort, même si ce n'est pas tout à fait le cas, c'est très bon, je dirais, pour le secteur énergétique, puisque les produits pétroliers libellés en dollars deviennent en quelque sorte moins chers pour la zone euro et donc pour la zone CFA. Donc il y a du pour et du contre. Les partisans de continuer de rattacher donc le franc CFA, bien évidemment, à l'euro, disent que ça maintient aussi une stabilité. C'est vrai que la monnaie ne flotte pas, comme on le voit également, d'ailleurs, l'auditeur parlait de l'Afrique du Sud. On ne peut pas comparer les choses, on ne peut pas comparer les économies de la zone CFA avec un pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud perd en quelque sorte en ce moment en compétitivité parce que sa monnaie, le rand, se déprécie. Depuis un an, la monnaie a perdu pratiquement 30% de sa valeur, ce qui est énorme. Donc les exportations de matières premières, c'est vrai que l'Afrique du Sud est producteur d'or et d'un certain nombre de matières premières, ne compensent pas les importations qui sont énormes pour ce pays, qui sont de plus en plus importantes d'ailleurs, notamment venant de Chine. Donc la balance commerciale est très déficitaire en Afrique du Sud. Donc vous voyez, les aléas de la monnaie sont aussi importantes pour ce pays, pour l'Afrique du Sud. Je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux situations.
Voilà, Benjamin, pour les explications de Dalila Beritane. On a répondu à votre question, Benjamin.
Alors, merci beaucoup et bonne journée.
Bah, bonne journée à vous, Yaoundé. Merci, Dalila. Je vous rappelle que vous présentez tous les jours Afrique Echo sur l'antenne d'RFI. Vous restez avec nous dans un instant, le point complet sur l'actualité. On revient dans 10 minutes, évidemment, pour parler du processus de paix en Côte d'Ivoire. A tout de suite.